France Inter, franceinter.com.
Merci Julie Gacon. Studio Théâtre, bonsoir à toutes et à tous, émission spéciale aujourd'hui. Il a toujours pensé que son père ne l'aimait pas. Il a entretenu avec sa mère des rapports tendres et compliqués. C'était un solitaire dans l'âme, même si dans son journal, bouleversante œuvre de littérature, il avoue qu'il s'oblige à sortir pour rester dans le flux de la vie. Ses parents sont d'origine ouvrière. Très jeune, il a aimé la littérature et l'amour des textes l'a amené tout naturellement à la passion du théâtre. De son vivant, il a connu quelques succès pour des mises en scène de textes qui n'étaient pas de lui. Il en était content, mais ne s'en satisfaisait pas. Sorte de Rimbaud de la fin du XXe siècle, il était vibrant, intense, brutal et délicat à la fois. Aujourd'hui, il est l'auteur contemporain le plus joué en France, le plus donné à l'étranger et traduit dans 25 langues. Son œuvre figure même dans le programme du bac français cette année. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle des jeunes lycéens viennent écouter ses pièces. J'en ai vu qui sortaient en pleurant. Aujourd'hui, studio théâtre spécial Jean-Luc Lagarce, le fils prodigue, le provincial qui n'a jamais voulu réussir, Jean-Luc Lagarce, l'intempestif. Merci à vous qui êtes dans ce studio pour parler de Jean-Luc Lagarce, Micheline Atoun, Lucien Atoun, François Béreur, Jean-Pierre Thibaudat. Je vais peut-être poser la première question à François, parce que dans l'ordre de l'amitié et de la chronologie, c'est lui qui a eu la chance de connaître le plus jeune Jean-Luc Lagarce. Vous êtes de la même région et vous avez fait vos études ensemble.
On est de Besançon, on s'est croisés quand on était étudiant. Je faisais du théâtre amateur, il m'a vu jouer dans un spectacle. Il m'a dit, si tu veux, on a une jeune compagnie, si tu veux venir faire un stage avec nous. Voilà. Donc j'ai fait un stage à Besançon avec Jacques Fournier, figure importante du théâtre de la Roulotte. Et puis on a
Car
fait 18...
la compagnie s'appelait La Roulotte.
Voilà, ça s'appelait le théâtre de la Roulotte et on a fait 18 spectacles ensemble.
Qui était Jean-Luc Lagarce?
Oh En fait, je pense que la meilleure manière de le résumer, je crois en tout cas de notre relation, c'est que je crois que pour être tout à fait honnête, si j'ai travaillé aussi longtemps avec lui, c'est parce que c'était un garçon extrêmement drôle et on s'amusait vraiment beaucoup. Voilà, c'était quand même un garçon extrêmement brillant, mais avec un humour incroyable tout le temps, même dans les moments les plus dramatiques.
Alors aujourd'hui, il est un auteur célébré partout. Il est adoré, idolâtré. Il n'a jamais connu justement cette reconnaissance de son vivant pour ses textes à lui. On le rappelait tout à l'heure, 25 pièces de théâtre, 3 récits, un livret d'opéra. Ce journal qui est véritablement bouleversant, à l'intérieur duquel, quand on y rentre, on ne peut pas en sortir parce que la vie s'arrête et ça devient d'une nécessité véritablement vitale de le continuer. On ne peut pas s'en arracher. Une biographie aussi fiévreuse que haletante à la manière dont il a vécu, que vous signez Jean-Pierre Thibaudat, donc, qui s'intitule le roman de Jean-Luc Lagarce aux solitaires intempestifs. Jean-Luc Lagarce était au départ quelqu'un qui était épris de littérature. On a l'impression que c'est les mots qui lui ont permis de s'évader de son réel.
Oui, je crois que c'est quelqu'un qui a, très jeune, énormément lu. Il était d'un milieu où il n'y avait pas spécialement de littérature à la maison. Et c'est quelqu'un qui, très tôt, s'est mis à lire énormément. Et dans son journal, il fait le listing des lectures qui le traversent. Comme ça, ça part dans tous les sens. Mais c'est des lectures de bon niveau, quand même. Il a une sorte d'autodidacte, comme ça. Il s'est formé lui-même. Il a lu très tôt, mais il a aussi écrit très tôt. Son frère raconte que dans la chambre commune qu'il partageait, il s'est mis très tôt à taper à la machine. Adolescent, donc l'écriture a très vite embrayé sur la littérature. Et puis les deux ont été menés de front tout le temps. Et son approche de la littérature, de la philosophie et du théâtre, très tôt il s'est mis à lire du théâtre. Parce que quand il rentre à 18 ans à peine au conservatoire de Besançon, il remplit une fiche et on lui demande quels sont vos auteurs favoris, quels sont ceux que vous aimez, quels sont ceux que vous n'aimez pas. Et il a des réponses très précises. Par exemple, il dit « Je déteste les poètes du Parnasse ». comme ça. Bon, il adore Rimbaud, hein, vous citiez Rimbaud, il adore Rimbaud. Il dit qu'il déteste Marivaux, qu'il écrit d'ailleurs avec une faute d'orthographe, qu'il écrit Marivaux avec un E. Bon, et puis des années plus tard, il va monter Marivaux. Bon, et voilà, c'est quelqu'un qui très tôt a déjà énormément lu. Pour un gamin d'une petite bourgade du pays de Bombéliard qui a 18 ans a lu tout ça, il ne devait pas y en avoir beaucoup.
Oui, tout petit, il avait quand même le côté péremptoire, hein, puisque dans le journal, il dit péremptoire, on l'aura compris, je l'étais déjà, mais il était péremptoire. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours connu un petit peu comme ça aussi. C'est-à-dire cette idée, quand il écrivait à 20 ans, pas moins que pour l'histoire de la littérature. C'est-à-dire que ce n'est pas arrivé par hasard. C'est vraiment un travail de 20 ans sur le théâtre. Et puis avec une mise en confiance, parce qu'il n'a pas été joué. Il a été peu joué, mais il a quand même été joué. Enfin, Lucien en parlera, et Michine aussi, mais plus en détail. Mais quand même, quand à 20 ans, ou 22 ans, il est monté par la Comédie Française au Petit Odéon, c'est Madame Knipper vers la Prusse Orientale, c'est un encouragement incroyable pour quelqu'un qui a 22 ans. C'est peut-être son troisième texte. Donc il a eu quand même une espèce d'encouragement incroyablement fort à 22 ans, et ce qui a donné une énergie pendant des années.
Alors je vous propose d'écouter tout de suite la voix de Jean-Luc Lagarce.
Actuellement, je vais beaucoup en province parce que je suis en tournée, il faut quand même voir que l'exclusion, ça existe. Donc les gens qui écrivent, qui mettent en scène, mais elle existe très violemment. Moi, quand j'ai laissé passer dans Libération que j'avais le sida, pendant quelques nuits, mon téléphone sonne pour qu'on me dise des horreurs au téléphone. Ça existe quand même. C'est-à-dire que si vous voulez, ça ne m'empêche pas de dormir, parce qu'après j'ai un répondeur. Mais quand je dis ça ne m'empêche pas de dormir, je blague pas. Parce que quand à un moment donné, parce que vous laissez dire dans un journal que vous êtes malade et que vous faites du théâtre, vous avez votre téléphone qui sonne, et fatalement des gens qui connaissent votre numéro de téléphone. C'est pas, ou alors je veux bien croire qu'il y a des gens qui vont chercher, mais et vous avez des appels anonymes pour vous dire des choses pas très gentilles, pas très sympathiques, enfin qu'ils croient pas trop sympathiques parce qu'ils ne concernent pas beaucoup. Mais donc je me dis que ça existe. Donc après, juste pour dire ça, c'est que on n'a pas à revendiquer ou pas revendiquer, si ce n'est que les gens qui peuvent parler comme là au micro doivent faire ça. Voilà. Moi, je le connais pas, je juge pas. Quand à la fin de la vie de Rudolf Nureyev, on essayait de me faire croire qu'il allait mourir de je sais pas quoi, je trouvais ça un peu étrange parce qu'un immense artiste avait presque, entre guillemets, mais je veux pas juger ça parce que chacun fait comme il sent. Mais je pense qu'il y a presque mission par moment de dire. Bon, on peut avoir le sida et continuer à marcher dans la rue et à vivre, entre guillemets, normalement.
Donc François Béreur, à Théâtre Ouvert, lieu dirigé par Micheline et Lucien Atoun, vous donnez à entendre, grâce à la voix donc, de Laurent Poitrenaud, des extraits de ce journal. Et on voit que très tôt, ce jeune homme, cette espèce de Rimbaud venu de nulle part, épris, amoureux de littérature, est obsédé par la mort.
Oui, mais peut-être difficile à dire parce qu'il est décédé, c'est terrible, mais c'est pas très original. C'est-à-dire qu'à 20 ans, quand on veut écrire, il y a un côté un peu romantique. Voilà. Donc il se projetait aussi dans ce rapport romantique à l'art, voilà, je crois tout simplement. Et puis,
donc, à l'art, à la vie, à la mort.
Voilà, à l'art, à la vie, à la mort, et c'était terminé, c'était trop à la fois, et ça allait être rapide.
Mais ce qui, moi, ce qui me frappe,
Jean-Pierre Thibaudat,
c'est lié à la mort, mais lié, ce qui est peut-être plus original, à la postérité. C'est-à-dire que très tôt, dans son journal, dans les lettres qu'il écrit à ses amis, il parle de ce qui se passera après sa mort, quand on lira son œuvre après sa mort. Dans les lettres qu'il écrit à son ami Dominique, que je cite dans le livre, il lui dit plus tard, quand tu passeras chez Pivot, tu n'oublies pas de dire ça, ça et ça. Et à ce moment-là,
vous pensez qu'il
n'a pas du tout
immortel dans l'esprit.
Enfin, c'est un jeu aussi, hein, c'est un jeu parce qu'il joue beaucoup avec ça. C'est aussi quelqu'un qui a joué tout le temps avec la mort. Alors donc c'est un jeu, mais en même temps c'est pas seulement un jeu. Il y a un peu de tout à la fois.
On va en parler comme d'un vivant parce qu'il est bien vivant grâce aux nombreuses mises en scène qui sont données partout dans le monde et particulièrement en France et grâce à tous ces textes qui sont aujourd'hui publiés qui nous permettent de rentrer à l'intérieur du personnage. Mais très jeune, il a commencé à écrire ses propres pièces. C'est pas comme ça d'ailleurs qu'il va se faire reconnaître, mais on y viendra tout à l'heure dans l'émission. Et puis, il vous envoie, à vous, Micheline et Lucien Atoun, ses premiers textes, parce que bien, à Théâtre Ouvert, c'est la pépinière des jeunes auteurs qui ne sont pas encore connus. C'est bien ça, Micheline.
Je suppose
Madame Atounette, comme il vous appelle.
Je suppose que c'est la raison. Je crois d'ailleurs que c'est par l'intermédiaire d'une journaliste du Monde qui le lui avait conseillé, qu'il nous a envoyé, en effet, l'un de ses textes, le premier texte, Les Vacances, je crois. Et il a eu beaucoup de chance parce qu'à Théâtre Ouvert, toute l'équipe de Théâtre Ouvert lit. À l'époque, l'équipe était beaucoup plus réduite. Maintenant, c'était une modeste association. Mais enfin, il a eu la chance que le premier lecteur soit directement Lucien Hatoun. Ce qui n'arrive pas toujours, car on se répartit les manuscrits. Et que Lucien Hatoun... Le principe à Théâtre Ouvert étant qu'on lit toujours les pièces jusqu'au bout, ce qui n'est pas si évident. Il a su, il faut bien le dire, détecter derrière une pièce assez inspirée par Ionesco, il a su détecter dans les dernières pages, il en parlera mieux que moi, quelque chose de nouveau et d'intéressant, qui n'était pas évident.
Lucien ?
Non, ce que je voudrais dire, c'est simplement qu'il ne faut pas qu'on essaye de réécrire l'histoire. Il y a des étapes différentes. Il me semble que le Lagarce, qui n'a pas franchi les 20 ans, n'est pas encore le Lagarce que nous sommes en train de raconter. Et il y avait un questionnement, Julie. Alors effectivement, il a eu cette chance. C'est comme le rappelait François Béreur, cette pièce qu'on publie en tapuscrit et qui montre son côté tchécovien et que Jean-Claude Fall a monté d'une manière magnifique au Petit Odéon. Et la journaliste dont il est question, c'est évidemment Colette Godard, qui lui a dit, moi, je ne sais pas, écrivez donc à Lucien Hatoun. Et quand j'ai lu ce texte, je dois dire que j'étais pas... Aujourd'hui, par exemple, je me dis toujours et dire que j'aurais pu passer à côté parce que si vous avez le texte sous les yeux, vous avez l'impression d'avoir affaire à un sous Ionesco, à un sous Beckett, et vous dites j'ai autre chose à faire dans la vie. Et en vérité, c'est dans les dernières pages, mais vraiment dans les dernières pages de ce texte, qu'il y a eu peut-être moins... une intuition pour moi en disant, j'ai écrit à Jean-Luc en lui disant, voilà, je suis...
Vous tardez, hein, d'ailleurs, il le note dans son journal et vous engueule.
Il
hein.
m'engueule, il trouve que je ne réponds pas, au bout de deux mois, que je ne réponds pas assez vite, voilà. Mais je lui ai dit que débarrassez-vous de vos influences, il semblerait qu'il y ait une piste dans les dernières pages. Et ce qui est magnifique, c'est effectivement, c'est là où j'en reviens aux remarques que vous faisiez tous les deux, je l'ai trouvé très humble après ça. Il a retravaillé. Et puis il m'a envoyé une autre pièce. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait cette pièce Carthage, qu'on a fait tout de suite en tapisserie, et qu'on a fait chez France Culture aussi.
Notre ami.
En 79. Et c'est Jean-Pierre Thibaudat qui, écrivant son livre, nous a fait la remarque. En 79, il y a le 15 décembre, Jean-Luc Lagarce avec une pièce de lui. Et il avait dans sa distribution notamment un certain François Cluzet et Catherine Fraud. Et puis le lendemain, il y avait... Bernard-Marie Coltès avec Combat des Nègres et de Chiens. C'est pour vous dire que ça va faire bientôt 30 ans qu'on se bat avec lui et pour lui. Donc pour moi, il y a un Jean-Luc Lagarce qui, est effectivement, après les 22-23 ans, prend conscience qu'il peut faire quelque chose, qu'il peut apporter quelque chose. Mais il a fallu quelques repères, quelques indications qui lui disent « Allez, fonce !» Et il a foncé, voilà.
Je vous propose d'écouter « Fest, I feel it all ». Sometimes you don't.
pointless. Put your weight against the door. Kick drum on the basement floor. Stranded in the fog of words. Looking like the winter bird. On my head, the water pours. Gulf stream through the open door. Fly away, fly away. What you want?
Théâtre, Laure Adler, sur France Inter.
Voyage de Madame Knipper vers la Prusse orientale a donc été donné au théâtre du Petit Odéon en 1980, et ce fut un moment très important dans la vie de Jean-Luc Lagarce, d'après ce qu'il en dit dans son journal, parce que là c'était les premiers prémices d'une sorte de reconnaissance. Il a écrit donc 25 pièces de théâtre. Je vais citer quelques titres, L'exercice de la raison, Retour à la citadelle, Dernier remords avant l'oubli, Music Hall, Histoire d'amour, Juste la fin du monde, Nous les héros, deux versions de Nous les héros, J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne, Le pays lointain. Et à chaque fois qu'on voit une représentation de Jean-Luc Lagarce, et je vous pose la question à vous tous et à Micheline d'abord, pourquoi est-on aussi bouleversé? Pourquoi cette émotion-là, Micheline ?
Je suis ravie de vous entendre poser la question en ces termes parce que l'aventure que nous vivons avec Ébauche d'un portrait en ce moment est précisément celle-là. Tous les soirs, je me demande qu'est-ce qui fait, alors qu'il y a 10 ans, 15 ans, les gens trouvaient ça légèrement abscon, littéraire, peu théâtral, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le public très mélangé que nous avons, qui sont des personnes plus âgées, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de très jeunes, qu'est-ce qui fait que cette langue leur paraît d'immédiateté pareille? J'en ai discuté avec quelques lycéens que je vois en effet sortir, et il y en a un qui m'a dit l'autre soir, mais c'est évident, pour nous c'est exactement comme ça qu'on parle. C'est pas vrai, bien entendu, hélas, ils ne parlent pas comme ça, mais c'est peut-être comme ça qu'on pense. C'est peut-être comme ça que le mécanisme de la pensée, avec ses corrections, ses retouches, il en parle très bien Jean-Luc, les redites, les légères touches de détails, les modifications, les remords, c'est, tout à coup, ça ne faisait pas mouche, et maintenant, en plein dans le mille, c'est extraordinaire. Tout à l'heure, on parlait du côté péremptoire de Jean-Luc, on parlait de son souci de la postérité. Il ne faudrait peut-être pas prendre ça trop au pied de la lettre. Parce que c'était quand même tempéré par un humour, une ironie, des doutes, beaucoup de doutes qu'il exprime aussi souvent dans le journal. Il faut pas les passer sous silence. En réalité, il est extrêmement tourmenté. Ce très beau début de Knipper n'a quand même pas été suivi tout de suite et même pendant longtemps par d'autres succès sur son écriture. Ce qui l'a sauvé aussi, c'est qu'il faisait par ailleurs des mises en scène et petit à petit, en tant que metteur en scène sur des classiques, il a été de plus en plus reconnu. Sur ses propres pièces, ça a été beaucoup plus difficile. Et il avait ce que je lui... Un jour, je lui ai dit, mais vous parlez anglais, Jean-Luc ? Il me dit, non, pas du tout, je ne parle pas anglais. J'ai dit, mais vous êtes tellement imprégné de l'understatement, de toute cette manière anglo-saxonne qu'on retrouve dans Vague souvenir de l'année de la peste, dans sa familiarité avec Swift, qu'il a monté, avec Defoe. Eh bien non, il ne parlait pas l'anglais, mais il avait cette manière anglo-saxonne, anglaise, britannique, ce flegme et cette espèce de perpétuelle remise en cause de soi. Et donc je pense que ce souci de la postérité, c'est aussi à prendre au second degré avec une dose d'humour, beaucoup d'humour. Il y a aussi une autre chose qui m'a beaucoup frappée chez lui ces jours derniers, et qui rejoint ce que disait Jean-Pierre Thibaudat, c'est son extrême curiosité. Combien de professionnels de théâtre je rencontre qui finissent par ne plus aller jamais voir les spectacles des autres.
Lui, il va tout voir.
Il va tout voir. Il continue à tout lire et il continue à aller au cinéma. Il continue à se passionner. Il continue à avoir la dent dure, ce qui est formidable. C'est-à-dire qu'il n'est jamais tiède, il n'est jamais indifférent.
Et il lit beaucoup.
Il lit beaucoup et il réagit.
Et
avec
il aime
violence.
Énormément.
Voilà.
On se demande comment il a fait cette œuvre monumentale en passant ses nuits dans les bars gays, avec de nombreuses rencontres dont il nous raconte certains fragments. Enfin, voilà un jeune homme qui sort des boîtes à 5 heures du matin et puis qui a une œuvre monumentale. Comment faisait-il pour avoir autant d'énergie ?
Ça, c'est un aspect de Jean-Luc qui m'a longtemps échappé et sur lequel je ne suis pas particulièrement spécialiste.
Quand même, quand il arrivait le matin, il était sur le coup, comme
tout
on dit.
Tout frais.
Pas tout frais, mais il avait l'énergie. Voilà. Non, mais c'est vrai, jamais il allait se plaindre il mettait de côté et c'était une nouvelle journée. Il avait quand même ce caractère assez extraordinaire, magnifique, de rendre aussi. Il y a cette petite phrase dans Juste la fin du monde que je trouve, alors pour le coup, est tout lui. Son frère lui dit, mais dans ta vie, tu ne peux pas rendre tout exceptionnel, tu es aussi quelqu'un comme les autres. C'est vrai, c'était quelqu'un comme les autres, mais tous les jours, vous mangez avec lui et Jean-Pierre qui l'a croisé, vous l'avez croisé, chaque moment avec lui devait avoir un caractère exceptionnel. Donc c'était formidable, mais totalement épuisant aussi.
Alors je vous propose d'écouter justement un extrait de La fin du monde dans la mise en scène de Michel Raskin, actuellement à la Comédie-Française, puisque je pense que Jean-Luc Lagarce aurait été très content, puisque maintenant, Jean-Luc Lagarce non seulement est rentré au répertoire de la Comédie-Française, mais c'est plein tous les soirs. On écoute un extrait de La fin du monde.
Il est venu en taxi. J'étais derrière la maison et j'entends une voiture. J'ai pensé que tu avais acheté une voiture. On ne peut pas savoir. Ce serait logique. Je t'attendais. Et le bruit de la voiture, du taxi. Immédiatement, j'ai su que tu arrivais. Je suis allée voir. C'était un taxi. Tu es venu en taxi depuis la gare. Je l'avais dit. Ce n'est pas bien. J'aurais pu aller te chercher. J'ai une automobile personnelle. Aujourd'hui, tu me téléphones, je serai immédiatement partie à ta rencontre. Tu n'avais qu'à prévenir et m'attendre dans un café. J'avais dit que tu ferais ça. Je leur ai dit que tu prendrais un taxi. Mais ils ont tous pensé que tu savais ce que tu avais à faire.
Moi, ce que j'aimais chez Jean-Luc, c'est, tout à l'heure on parlait de la mort, c'est son humour extraordinaire. Et quand je me souviens maintenant, on est ensemble, je me souviens de la dernière interview, et tout d'un coup, je lui ai demandé comment vous avez su que vous aviez le sida.
Il en parle d'ailleurs son journal,
voilà,
de cette dernière interview.
Et il me dit, j'ai été voir le médecin avec des analyses pour toute autre chose, et ça me remonte, et le médecin me dit, il vous reste 6 mois à vivre, vous avez le sida.
Ça n'avait pas l'air de le préoccuper plus que ça, d'ailleurs.
Voilà, alors je lui ai demandé, mais comment vous avez écouté cette information énorme. Il m'a dit, j'ai tout de suite pensé à Hitchcock, ce qui est énorme comme réponse. Et je lui ai dit, ah bon, et pourquoi ? Il me dit, parce qu'Hitchcock a écrit un jour qu'un homme qui n'avait pas de projet est un homme mort. Or, comme j'avais plein de projets, donc j'étais tranquille. Voilà. Et il a tenu 9 ans et demi.
Qu'est-ce qu'on aime chez Lagarce ? Parce qu'en fait, le phénomène, c'est que plus on le connaît, plus on a envie de le connaître. C'est ça. Et en fait, c'est aussi ce que vous dites.
Et quand on ne l'a pas connu, ce qui est mon cas, on a un regret éternel de ne pas l'avoir rencontré, de ne pas lui avoir parlé. Ouais.
Mais en même temps, il est insaisissable, parce que ce que vous racontez quand il a appris qu'il est séropositif, au fond, c'est ce qu'il vous a raconté à vous, et je ne mets pas du tout ce que vous racontez en doute, et c'est exact, c'est ce qu'il vous a raconté. Mais il avait une manière de raconter les choses, si vous voulez, la manière de raconter était plus forte que souvent les choses réelles. Donc je sais très bien, pour l'avoir, quand il l'a appris, et il a mis du temps à nous le dire, quelques mois, avec ses proches, et ce qu'il raconte dans le journal, c'est une version un peu différente. Vous voyez ? Et je pense que Jean-Pierre, lui, qui a connu plein de gens, c'est que les personnes ont vécu des moments intenses avec lui, mais en même temps, il raconte l'art de raconter aussi dans la vie était un peu comme son théâtre. C'est-à-dire que l'art de raconter par moment prenait le dessus sur la vérité. Et d'ailleurs, si autant il se pose la question de la tricherie, c'est qu'il savait lui-même que des fois, il arrangeait. Enfin, la notion de l'arrangement est très importante aussi chez la garçon.
En tout cas, les histoires d'amour avec les garçons qu'il raconte dans son journal sont absolument bouleversantes. Ouais. Et je ne peux pas imaginer qu'il puisse y avoir inflation, tricherie, tellement il y a de...
Il en est lui-même surpris.
Tellement
il dit,
on
mais
est
c'est
dans
incroyable.
La vérité, dans il la vérité de la douleur, de la passion.
Moi, c'était sur le nombre.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en interrogeant tous les témoins de sa vie, François qui est ici à côté de moi, d'autres, parlant de la même scène, parlant de la même scène, c'était pas du tout les mêmes versions que François nous dit. Mais c'était pas, ça s'est pas du tout passé comme Jean-Luc le raconte. Et un tel disait mais non, j'ai pas vu Mireille Herzmeyer qui était sa proche collaboratrice, qu'on peut pas, qui est quand même quelqu'un de très droit et qui dit les choses, elle n'a pas forcément vécu la même chose. Bon, mais où est la vérité? Elle est partout. L'important, c'est que le journal, c'est une œuvre littéraire. C'est une grande œuvre littéraire.
Très grande œuvre.
C'est ça qui compte. C'est ça qui est d'abord ça. Que ça soit vrai, faux et tout. Moi, ce que j'ai essayé de faire dans le roman, et c'est pour ça aussi que ça s'appelle roman, c'est de raconter cette histoire, de la raconter lui comme héros de roman, héros de sa propre vie. Mais alors, est-ce que c'est 100% fiable? Donc, quand il y a plusieurs versions, je mets les différentes versions d'un même fait, et c'est ça qui est beau.
Alors, ce qui est très beau aussi, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va tarder à se faire reconnaître, même s'il est adoubé par vous, Micheline et Lucien Atoun, grâce à Théâtre Ouvert. Et c'est ensuite une de ses autres vies, parce qu'on peut dire qu'il en a au moins trois, si ce n'est pas cinq ou six. Une de ses autres vies, c'est de gagner la sienne en étant metteur en scène. Manifestement, en tant que metteur en scène, contrairement à l'écriture de ses pièces, où là, il va falloir qu'il meure pour qu'il soit véritablement reconnu, en tant que metteur en scène du répertoire classique ou contemporain, il est immédiatement accepté et il est reconnu avec même grand succès. Est-ce qu'il était un bon metteur en scène, Jean-Pierre Thibaudat ?
Alors, je pense qu'on peut dire qu'il était peut-être un meilleur metteur en scène des autres que de lui-même. C'est peut-être un des facteurs d'explication de sa reconnaissance tardive. Enfin, il y a sans doute multiples facteurs, hein, mais c'est peut-être un des facteurs. Et c'est sûr que quand il aborde la cantatrice chauve, une pièce qu'il souhaite monter quand il a 20 ans, mais il n'a pas les droits de Ionesco à ce moment-là, parce que Ionesco les avait réservés à la Huchette, comme on sait tous. Et quand il décide finalement, après un moment quand même assez tragique, c'est-à-dire qu'à un moment où il décide d'arrêter, bon, il a fait des mises en scène toute sa vie, mais quand il décide de monter la cantatrice chauve, c'est un moment où il décide d'arrêter d'écrire quand même, bon, et de passer et de devenir grand metteur en scène en quelque sorte, de se prouver bon. Et il fait cette mise en scène absolument extraordinaire de la cantatrice chauve, et puis c'est une mise en scène alors absolument décapante qui va au rebours de toute la doxa. Qui est lié à Ionesco. Il reprend le manuscrit qui vient de paraître alors dans la Pléiade avec les différentes fins complètement explosives que Ionesco a montées. Il monte ça, il change la pièce au lieu de la faire dans un salon, il met ça dans un jardin avec des références à des feuilletons télé, tout ça. C'est une mise en scène complètement décapante, explosive, tellement belle, tellement forte que quand François Béreur, avec les comédiens de la création, l'a repris l'an dernier, 15 ans après, la mise en scène n'avait pas vieilli d'un iota et le succès public a été le même.
Deux personnes que nous aimons, Yves Simon et Françoise Hardy, aux fenêtres de ma vie.
Aux fenêtres de ma vie, je regarde les jours. Que reste-t-il des amants, des bravos, des amours? Combien de ruses il fallut pour gommer un chagrin? Combien de temps il faudrait pour s'oublier enfin? Aux fenêtres de ma vie, je vois passer le temps. Que reste-t-il des clameurs, des applaudissements? Combien de ruses il fallut pour conserver l'ivresse?
fallu pour gommer un chagrin. Combien de temps il faudrait pour s'oublier enfin? Combien de ruses il fallut pour conserver l'ivresse? Combien de temps il faudrait pour garder sa jeunesse?
Studio Théâtre, Laure Adler.
Dans tous les textes et les pièces de Jean-Luc Lagarce, ainsi que dans son journal, il y a sans arrêt une sorte d'éloge de la condition ouvrière. Il n'y a jamais ce désir, comme on trouve parfois chez des personnes dites de milieu, entre guillemets, de la classe ouvrière, de vouloir s'en sortir, de prendre sa revanche. Bien au contraire, Micheline Atoun.
Je dirais que plutôt que l'éloge de la classe ouvrière, c'est l'éloge de la provincialité. Enfin, il est extrêmement bisontin, fier de l'être. En même temps, il en joue. Il joue au pauvre petit provincial qui n'a pas forcément accès au parisianisme et à la culture. Et je dirais que c'est plutôt son côté protestant et son côté provincial qu'il cherche à mettre en valeur, m'a-t-il semblé. Maintenant, pour en revenir à la question de la mise en scène, très justement évoquée par Jean-Pierre, pour être tout à fait honnête, et ensuite les événements l'ont prouvé, en effet, Jean-Luc, il faut bien le reconnaître, n'était pas nécessairement le meilleur metteur en scène de ses textes. Et en effet, je crois que ça a un peu contribué aux difficultés qu'il a eues. J'en veux pour preuve qu'il a monté à Théâtre Ouvert un spectacle que nous avions vu, d'ailleurs Lucien et moi, à Besançon, Music Hall, qu'il tenait beaucoup à reprendre à Paris. Nous n'étions pas sûrs et certains, pour dire la vérité, que c'était forcément une bonne idée. Et même si le spectacle était tout à fait intéressant, et en revenant justement de Besançon, nous avons pris ensemble l'autobus à la gare Montparnasse. Et on était là dans cet autobus et on sentait qu'il y avait une demande non formulée et qu'il n'exprimait pas et qui était « Alors, vous avez envie de le reprendre à Théâtre Ouvert ou pas ?» Mais il ne l'a jamais dit. Et alors là, il s'est passé un de ces trucs magiques qui se passent 3-4 fois en 30 ans. On s'est regardé avec Lucien et on s'est fait un imperceptible signe de tête. On a consenti mutuellement et je ne sais plus lequel des deux lui a dit « Alors, vous voulez qu'on le reprenne à Théâtre Ouvert ?» Alors on a vu son visage s'illuminer. Et il était très heureux, je crois qu'il ne l'aurait jamais vraiment formellement demandé.
Et puis il y a aussi la notion de troupe. On le voit bien tout au long de l'évolution de son parcours. Jean-Luc Lagarce va monter donc cette troupe, la roulotte, et ne va cesser d'essayer de la faire vivre, cette compagnie, cette espèce de coopérative, avec cet amour des acteurs qu'il idolâtre et dont il parle sans cesse dans ces deux tomes du journal. On avait l'impression que être auteur, être acteur, être metteur en scène était peut-être pour lui une seule et même chose, François Béreur. C'était interchangeable.
Oui et non, c'est-à-dire au sens où la troupe, il aimait peut-être par-dessus tout le théâtre, la vie de théâtre. C'est-à-dire comme auteur, il disait « bon, j'ai besoin d'un cahier, un crayon, j'écris ». Alors qu'il aimait la vie de théâtre, et il aimait bien sûr la mise en scène, mais il aimait, je crois, encore plus la vie
les
de théâtre.
Répétitions, les rappels, les tournées.
Ça. La vie vraiment du théâtre, même, je crois, parce qu'en fait...
La vie pauvre du théâtre, car ce n'était pas une vie pleine de luxe,
oui, hein, ça,
les
ça, je suis pas sûr qu'il aimait bien. Ça, c'est inhérent à une jeune compagnie qui débute. Voilà.
Ah, ça lui plaisait bien, quand même.
Quand ça allait mieux, oui, je pense. Quand ça allait mieux. Mais, par exemple... Il a dit ça dans une interview, je trouve ça une phrase très belle, on lui demandait « Mais pourquoi faites-vous du théâtre ?» Vous savez, la fameuse question. Et il a répondu « Pour ne pas être seul. » Et je trouve que c'est une très belle réponse par rapport à son travail fondamental d'écriture. Et puis, il restait dans le théâtre. En même temps, je crois aussi que son écriture a bénéficié de cette connaissance, de cette pratique du théâtre. Parce qu'il a appris... c'était une compagnie amateur qui est devenue professionnelle. Ouais, ça a duré des années. Un spectacle qui jouait 1 fois, 10 fois, 20 fois, petit à petit, etc. Et donc, dans ce travail permanent avec les acteurs, je crois aussi qu'il baignait dans... Il avait un amour du théâtre. Même si dans le journal, il dit « Je voudrais écrire, effectivement. » Il rêvait d'être écrivain, romancier. Mais il avait une espèce de malédiction, entre guillemets, du théâtre. Il écrivait du théâtre, il pensait théâtre. Le journal s'est écrit quand même d'une seule traite, sans rature. Il pensait théâtre. Mais par exemple, juste pour finir jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire quand il était malade, il disait, par exemple, je suis désolé, je ne vais pas venir en répétition, en tournée avec vous, parce qu'il faut que je me repose, il faut que j'aille à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il avait vraiment, jusqu'à la fin, vraiment épuisé. Il continuait à venir vraiment en tournée. Et d'ailleurs, dans les récits, il évoque ça. C'est une espèce incroyable, force incroyable de ne pas aller. Par exemple, quand l'hôpital lui disait « Vous devez être à l'hôpital », il disait « Non, non, je ne reste pas. Je dois aller répéter. J'ai un spectacle en tournée, je ne peux pas rester. » Donc, une vitalité incroyable pour vraiment continuer à aller sur les routes et dans les villes.
Oui, alors, je vous propose d'écouter un extrait de Juste la fin du monde dans la mise en scène de Raskin actuellement à la Comédie Française. On va retrouver justement cette énergie de la langue et aussi ce contexte familial qui est quand même récurrent dans la plupart de ces pièces.
Le dimanche...
Maman !
Je n'ai rien dit, je racontais à Catherine. Le dimanche...
Elle connaît ça par cœur.
Laisse-la parler, tu ne veux laisser parler personne. Elle allait parler.
Cela le gêne. On travaillait. Leur père travaillait, je travaillais, et le dimanche, je raconte, n'écoute pas, le dimanche, parce que en semaine, les soirs sont courts, on devait se lever le lendemain, les soirs de la semaine, ce n'était pas la même chose, le dimanche, on allait se promener, toujours et systématique.
C'est la scène 4 de Juste la fin du monde, et c'est Catherine Ferrand qui interprète le rôle de la mère. Alors voilà un spectacle absolument bouleversant, où Jean-Luc Lagarce décide de prendre comme thème de départ l'arrivée d'un fils qui vient retrouver sa mère, son frère, sa sœur, ainsi que la femme de son frère. Il sait qu'il va venir les voir pour la dernière fois. Il vient pour cela, pour leur dire adieu, mais il n'aura pas la force de repartir en leur disant que c'est la dernière fois. Et dans cette pièce qui évoque justement cette jeunesse dans ce milieu ouvrier, avec le sens des valeurs, avec le respect pour le travail, avec la tradition, l'amour de la province, eh bien, il n'y a pas de père. Il a tué le père, alors qu'il était vivant encore à l'époque. Pourquoi, François Béreur ?
Moi, je peux rapporter que ce qu'il m'a dit. C'est-à-dire qu'au téléphone, il était à Berlin quand il écrivait. Je me souviens très bien de la conversation. Il m'a dit « J'ai tué le père ». Il n'arrivait pas à écrire la pièce. Et donc, il m'a dit « J'ai tué ». C'est dans son journal aussi. « J'ai tué le père ce matin. Chacun sait que c'est la meilleure chose à faire ». Sa préoccupation, c'est que théâtralement, ça fonctionnait mieux. C'est-à-dire qu'une famille sans père, on se pose la question de la place du père. Le fils aîné est parti, il doit remplacer le père, la mère. On comprend tout de suite que théâtralement, ça fonctionne mieux, ça circule. Voilà. Aller le dimanche après-midi dans une famille où tout est bien agencé, il n'y a pas de place à prendre. Si l'aîné n'a pas de place, le second non plus n'a pas réussi à prendre sa place, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de théâtre.
Alors, il y a cette langue aussi de Lagarce qui est absolument obsédante, non seulement dans son journal, mais aussi dans toutes ses pièces, les pièces qu'il a écrites. C'est comme si c'était quelqu'un qui écrivait tout en sachant qu'il n'écrivait pas bien ou que peut-être il ferait sans arrêt des fautes de français qui seraient incorrectes. Et c'était comme si c'était une écriture de la blessure de la langue ou de l'incorrect langagier, Jean-Pierre Thibaudat. Il joue beaucoup là-dessus.
Il joue beaucoup là-dessus. Je pense aussi qu'il s'est posé la question Beckettienne. Hein, comment écrire son ouvrage sur le théâtre? Il a écrit une maîtrise, Théâtre et pouvoir en Occident, qui s'achève sur le théâtre contemporain, entre autres sur Beckett. Et on sent bien que Beckett, c'est quelque chose... Il l'a monté d'ailleurs, il a monté trois textes de Beckett. Donc le comment dire, je pense que c'est central chez Beckett, mais Lagarce se l'approprie très différemment dans une sorte d'hésitation du dire, de flux, de reflux, de reprise. C'est jamais des répétitions, c'est une sorte de magie de la langue qu'il introduit dans une sorte de fausse et de vraie et fausse hésitation. Le mot juste, trouver le mot juste, mais le mot juste on le trouve jamais, il est toujours devant soi, c'est toujours une carotte qu'on a. Et puis dire, oser dire, comment formuler. Bon, tous les acteurs qui travaillent du Lagarce passaient le cap difficile d'apprendre par cœur tout ça, parce que c'est diabolique. Après, ils entrent dans une jouissance, mais effrénée, et on vient de l'entendre. On voit que Catherine Ferrand, elle jouit sur scène quand elle dit ça. C'est une jouissance totale pour les acteurs, et pour les spectateurs aussi.
Je vous propose d'écouter Jean-Luc Lagarce dans un entretien avec Lucien Toul.
Pour qui on tient un journal?
Ben, je pense beaucoup
pour moi, et puis avec le recul, c'est-à-dire le fait que c'est si long maintenant, que c'est beaucoup, beaucoup de pages et tout ça, quelque part, il doit y avoir comme un truc qu'on met dans un coffre au cas où, pour qu'on vous lise après et que les gens sachent les choses qu'on leur a pas dit ou tout ça. Mais ça relève plus du domaine de l'intime. Je trouve ça très thérapeutique, d'une certaine manière. Et puis, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté bloc-notes comme ça. Moi, c'est un journal absolument anodin, enfin, comme tous les journaux, d'ailleurs. Et puis, en même temps, c'est comme une espèce de bilan, pas au jour le jour, mais disons très régulièrement tenu, de ce qui se passe, de comment on le ressent. C'est assez drôle, aussitôt qu'on remet des fois un peu le nez dedans, faut pas trop remettre son nez dedans, mais aussitôt qu'on remet un peu son nez dedans, parce que c'est pour ça combien on a changé d'avis si vite, enfin, des fois, combien les choses qui paraissaient inébranlables ont bougé, enfin...
Ce que je voudrais dire, c'est que je suis sûr de ça. C'est
que Jean-Luc Lagarce... On dirait qu'il fait du Lagarce. Hein,
non, mais je suis sûr attention. Que Lagarce est en train de nous écouter et trouve qu'on exagère un petit peu, comme il dirait. D'abord, moi, ce qui m'a frappé, et on en manque peut-être...
Mais vous avez raison de souligner qu'il est peut-être en train de nous écouter parce qu'il ne croyait pas tellement à la mort et il pensait, en lisant le journal, on a cette impression omniprésente que les vivants et les morts continuent à vivre ensemble.
Absolument. Et moi, ce qui m'a bouleversé, je dois dire, quand j'étais le soir de la première à la Comédie française pour juste la fin du monde, la Comédie française avec le plateau,
ah
etc.
Ouais, tout le monde pleurait.
C'est les gens pleuraient, mais les gens riaient aussi. Et des gens qui découvraient Lagarce et qui découvraient un humour intelligent. Et quand on est à l'ébauche d'un portrait à théâtre ouvert, les gens pleurent, mais les gens rient. Et je voudrais qu'on rie. Et je voudrais dire aussi que, contrairement à ce qu'on pense, c'était un garçon qui avait beaucoup de scrupules. Et on le montre avec toutes ses certitudes. Moi, je n'oublierai pas une chose. Un jour, on a présenté à Théâtre Ouvert un travail avec les étudiants et avec les comédiens aussi. Et c'était Bac Souvenir de l'année de la peste. Donc, inspiré de Defoe. Tout à l'heure, Michel évoquait le côté anglo-saxon de Lagarce. Et tout d'un coup, Jean-Luc Lagarce m'a dit... « Ah, mais c'est terrible, il va falloir que je relise ma pièce et que je réécrive des choses. » Et j'ai dit « Pourquoi ?» Il m'a dit « Moi, j'ai écrit une pièce sur le sida. » On pourrait croire que j'ai écrit une pièce sur le sida, donc aujourd'hui, et sur le Front National, parce que dans ma pièce, on raconte que c'est un étranger qui amène la peste. Et je ne voudrais pas qu'on croie que j'ai récupéré une situation. Et il n'a pas eu le temps de réécrire. Mais ces scrupules-là, je ne connais pas beaucoup d'auteurs qui les affirment.
Ce qui est drôle, c'est qu'on a là un débat qui ressemble à celui qu'il y avait il y a un siècle autour de Tchekhov. On dit, est-ce que c'est drôle, est-ce que c'est triste? Et c'est vrai
c'est
que d'une certaine
la
façon,
fois.
C'est les deux à la fois. Et que quand on dit que c'est notre Tchekhov à nous d'aujourd'hui, c'est pas vraiment faux. Sauf que Lagarce avait les deux pieds dans le théâtre, alors que Tchekhov n'en avait qu'un.
Un titre qui va vous rappeler... Beaucoup de souvenirs, Charles Aznavour, Les deux pigeons.
Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre, mais l'un d'eux a quitté leur toit. Ils sont longs, les jours de l'attente, et longues sont les nuits sans toi. Un pigeon regrettait son frère, moi je regrette mon bel amour. Comme lui, j'attends un bruit d'aile, le doux bruit d'aile de son retour. J'ai laissé partir avec elle le bonheur qui nous était dû sur le chemin du temps perdu. Amant, heureux amant, redites-le souvent, une absence est toujours trop longue, rien ne sert de courir le monde, l'amour passe. Et les feuilles tombent quand tourne la rose des vents. Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre, mais l'un d'eux a quitté leur toit. Ils sont longs les jours de l'attente, et longues sont les nuits sans toi. Un pigeon regrettait son frère, moi je regrette mon bel amour.
comme lui, j'attends un bruit d'aile, le doux bruit d'aile de son retour. J'ai laissé partir avec elle le bonheur qui nous était dû sur le chemin du temps perdu.
Studio Théâtre sur France Inter.
Dernière question, parce qu'on pourrait parler très longtemps de Jean-Luc Lagarce, et j'espère que nombreuses et nombreux seront les auditrices et les auditeurs qui iront écouter Jean-Luc Lagarce qui est donné en ce moment partout en France et lire la biographie de Jean-Pierre Thibaudat au Solitaire Intempestif ainsi que les deux tomes du journal toujours dans la même maison d'édition. Expliquez-moi pourquoi il faut mourir et pourquoi il faut être mort pour être reconnu quand on est un auteur de théâtre contemporain.
Pourquoi, je ne sais pas. Et j'ai envie de dire, de profiter de votre question, Laure, pour dire qu'il y a un ou deux Jean-Luc Lagarce, peut-être quelque part, en ce moment, je n'en sais rien, qui sont en train de commencer, eux, à écrire, ou d'écrire, et qui ont peut-être 30 ans, 35 ans, et qui sont les nouveaux petits Lagarce qui vont ou ne vont pas réussir. Et si, avec Lucien, on se bat comme ça depuis tant d'années pour le théâtre contemporain, eh bien, c'est justement pour que les gens se rendent compte, le public qui s'en rend compte d'ailleurs de plus en plus, que le théâtre contemporain, c'est pas plus difficile d'accès que les classiques. C'est le contraire. Et j'ai envie de dire aux auditeurs, écoutez la parole des nouveaux auteurs, n'attendez pas qu'ils soient morts pour venir les entendre.
Bravo Micheline.
Bravo. Non, mais juste dire qu'il y a actuellement de nouveaux auteurs qui sont marqués par l'écriture de Lagarce, ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre de prédécesseurs. Et lorsque, vous vous rappelez, François, l'année dernière, on avait présenté un hommage comme ça, un salut, on a dit « Je ne suis plus seul dans ma maison », eh bien, il y a eu deux auteurs qui ont écrit deux textes de témoignage. Ils n'ont jamais rencontré Lagarce de leur vie, mais ils connaissaient son écriture. Et on sent qu'ils lui disent « Merci d'avoir écrit ce que vous avez écrit ». Je crois que ça, c'est important de le dire aussi.
Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission consacrée à ce grand auteur contemporain de théâtre, Jean-Luc Lagarce, qu'on peut écouter et lire en ce moment. Et on va se quitter en écoutant la voix de Jean-Luc Lagarce.
Des fois, dans des débats, les adolescents, sur le malade imaginaire, par exemple, les adolescents, ils ne pensent pas qu'ils peuvent vous parler directement. Ils ne se rendent pas bien compte. Hein. Alors, ils vous parlent du malade imaginaire, puis ils vous disent « Moi, je trouve que c'est bizarre parce qu'aujourd'hui, à cause du sida, tout ça. » Et puis, ils vous disent des choses, mais énormes. Voilà. Et autour de vous, des acteurs qui sont au courant ou tout se disent il va se faire, il est en train de prendre des coups et tout, mais on prend pas de coups si on est dans une situation claire par rapport à soi-même, on ne risque rien par rapport à ça.
Alain Thomas, Jean-Philippe Véret, Gilbert Aumont, Laure Adler, toute l'équipe de Studio Théâtre vous remercie pour votre fidélité, espère vous retrouver la semaine prochaine. Vous écoutez France Inter, dans quelques secondes, le journal.